Nous te saluons. Voici notre question. Les bouleversements politiques à l'Est sont dus en partie à des échecs économiques. Les économies à l'Ouest souffrent, elles, d'une surabondance, source de gaspillage, de pollution et d'inégalités cruelles. Pouvez-vous nous donner quelques éléments d'une voie économique à venir, pour l'Est comme pour l'Ouest, plus respectueuse de la satisfaction des besoins fondamentaux de chacun, de l'environnement et de l'aide indispensable à apporter au peuple en voie de développement?
Je vous remercie pour la question et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage. On me demande ou on me propose de parler de la structure du monde et surtout de sa structure politique. Et bien que peut-être cette question ne vous intéresse pas tous, je vais du moins y répondre tout en essayant de répondre à ceux qui vous intéressent plus personnellement en même temps. Parce qu'il faut dire que même si la question paraissant trop politique ou trop économique ne puisse pas vous intéresser personnellement, en fait, comme chaque individu vit dans le monde, il est au plus proche concerné par une structure économique ou politique, et même dans sa spiritualité. On pourrait croire que, par exemple, la spiritualité n'est pas concernée par la politique. C'est vrai que, par exemple, lorsque l'on se destine à être un moine, il n'est pas nécessaire de s'intéresser à la société ou à la politique. Parce que se retirant du monde, il est vrai que l'on vivra dans un petit univers personnel et que quoi qu'il se passe donc à l'extérieur, les lois resteront inchangées pour le moine que l'on est. Mais si l'on est un disciple incarné dans le monde, il va de soi de conclure que la politique ou une structure économique typique influencera notre type de développement. Et pas parce que l'idée politique où la classe économique à laquelle on appartient aura une quelconque force pour conditionner notre spiritualité, mais tout simplement parce que les épreuves et les expériences vécues grâce à une certaine politique ou une certaine économie seront complètement différentes si l'on vit par exemple à l'Est ou à l'Ouest. Ce qui ne veut pas dire que les épreuves sont très différentes du point de vue initiatique. Car en fait, les véritables épreuves initiatiques, ou tout simplement le dépouillement que l'on a à produire sur la spiritualité, ce dépouillement est exactement le même que l'on se trouve à l'Est ou à l'Ouest. C'est une question de vie intérieure. Mais cependant, toutes les épreuves qui seront administrées à la personnalité, c'est-à-dire la façon dont on va apprendre à se dépasser soi-même, ou à intégrer la patience, ou à intégrer une certaine culture ou un certain ésotérisme, toutes ces choses-là vont être très différentes les unes des autres selon que l'on se trouve à l'Est ou à l'Ouest, ou selon que l'on se trouve en Afrique, ou dans un pays oriental, ou en Occident. Donc je vais répondre à la question tout en m'échappant de temps en temps pour vous répondre à vous qui êtes venus. Quand on parle de politique, et quand on parle d'économie, il ne faut pas oublier qu'en fait, une économie, une politique, sont en fait une idéologie. On ne peut pas se dire qu'il y a une politique, comme si la politique existait en tant que telle, et séparée de la philosophie. On ne peut pas non plus estimer que l'économie existe pour elle-même parce qu'on a fait le choix de gérer l'argent et le capital d'une certaine manière, et d'administrer les entreprises d'une certaine manière. En fait, si quelqu'un décide d'administrer une entreprise et toute une nation d'une certaine manière, ce n'est pas simplement parce que cet individu a un programme politique. La politique est avant tout une pensée. Si je pense de telle manière, mon comportement politique sera l'équivalent de ma pensée. Si donc je suis un être possessif, mon comportement politique sera possessif automatiquement et toute l'économie qui en découlera visera à enrichir ma possession. Donc il va de soi que toute politique, que toute économie est avant tout grandi dans une matrice que l'on appelle tout simplement la pensée et l'idéologie. Donc quand on étudie une économie et si on veut la comprendre véritablement et en profondeur, il faut observer le comportement de la nation du point de vue philosophique et du point de vue de la pensée, et que cette pensée soit une pensée individuelle ou une pensée nationale. Ce qui fait que lorsque l'on se trouve de l'autre côté, dans l'invisible, et que l'on regarde tout simplement le type de pensée qui anime les hommes d'une nation, sans être davantage clairvoyant ou sans connaître même le futur, on saura tout de suite si l'économie du pays est à tendance socialiste ou bien capitaliste. Et quand je fais la différence entre les deux, je ne dis pas qu'en fait il y a une réelle différence du point de vue de l'économie. Il y a eu des tentatives pour se différencier, mais on ne peut pas dire qu'une différence existe entre le socialisme, le communisme ou le capitalisme. En fait, tout cela est la même idéologie. Et c'est pour cela que d'un côté comme de l'autre, les choses ne fonctionnent pas. Et que l'on voit tout s'écrouler, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Et l'on se demande dans cet écroulement lequel arrivera à se renouveler suffisamment pour sortir vainqueur du chaos. En fait, ce n'est pas le type politique ou le type économique qui est en jeu dans un pays. Par exemple, lorsqu'à l'est on voit l'écroulement ou bien le renouvellement ou les tentatives de renouvellement, il faut savoir que les guides, les maîtres n'essayent pas de transformer le communisme ou le socialisme en quelque chose de différent. Les maîtres se moquent complètement de la politique, ils n'ont que faire de la politique. Non pas parce qu'ils sont incapables d'une pensée politicienne, mais tout simplement parce que la base même de la politique, ce n'est que de l'idéologie. Et que donc il vaut mieux travailler sur l'idéologie humaine pour voir ensuite la politique et l'économie se transformer. Ce qui veut dire en fait que si on regarde les grands archétypes qui sont autour de la Terre dans un plan qui vise à maintenir l'évolution d'une humanité, on s'aperçoit que le maître ne prévoit aucun axe politique et aucun axe économique. Il ne prétend pas qu'à tel moment doit commencer pour l'humanité une ère de capitalisme ou une ère de socialisme. Cela ne l'effleure absolument pas. Alors pourquoi est-ce que l'homme ensuite détermine un comportement capitaliste ou socialiste? Tout simplement parce que l'homme pense, et l'homme ne pense pas comme le maître, il ne pense pas comme Dieu. Ce qui fait que dans sa manière d'administrer le bien commun, puisque la Terre est un bien commun à toute l'humanité, il va se comporter de manière différente. Et ce qui va faire la différence est encore une fois donc l'idéologie. Et l'idéologie, qu'est-ce que c'est? L'idéologie, c'est tout simplement la forme pensée que des générations d'individus ont réussi à créer. Ce qui veut dire qu'une politique ne peut absolument pas exister si bien avant cette politique, une certaine matrice dans la pensée n'a pas existé. Ce qui fait qu'automatiquement, ce qui se passe dans le monde n'est que le résultat de ce que les hommes ont pensé. Ce qui fait aussi que les individus qui viennent bien après ceux qui ont pensé sont en quelque sorte et souvent les victimes. C'est pour cela qu'il est attendu d'eux qu'ils changent les choses. Certains qui ont un karma accéléré ou des incarnations accélérées, certains qui ont donc participé à la création de l'idéologie dans la matrice, se réincarnent suffisamment vite pour être très vite aussi les victimes de ce qu'ils ont créé. Les deux cas existent. Mais il ne faut pas croire qu'une idéologie vient comme cela parce que le guide en a décidé ainsi ou qu'une planète a suffisamment influencé les hommes pour que cela existe sur la Terre. En fait, que fait une planète? Une planète ne fait que envoyer un concept. Le concept est très dénué. Il ne contient aucune idéologie. Il n'est pas quelque chose qui s'articule en termes de loi. Absolument pas. Le concept est tout simplement quelque chose qui va typifier un comportement. Ce qui ne veut pas dire que ce comportement sera typifié jusque dans ses moindres détails. Seulement lorsqu'une nation va recevoir cette influence, en quelque temps, des hommes se mettent à créer un programme autour de ce concept. Et selon l'évolution de ces hommes, selon l'évolution de leur pensée, selon qu'ils seront capables ou pas d'aller jusqu'à la source même du concept, donc le plus proche possible de la pureté du concept, ils créeront directement un programme qui sera soit une pâle caricature du concept, soit quelque chose qui y ressemble absolument. Selon l'évolution des nations, et en considérant ce que sont les nations aujourd'hui, je peux vous affirmer que l'imitation des concepts qui sont envoyés par les planètes, cette imitation est très pâle, très maladroite. Et c'est pour cela que l'on voit se créer systématiquement des clans, le clan des riches, le clan des pauvres, des capitalistes, des communistes. Mais en fait, aucune planète, aucune heure astrologique n'a sonné pour qu'un jour naisse le capitalisme ou le communisme. Par contre, l'homme en a décidé ainsi. C'est la création de l'homme et uniquement de l'homme. Et comme tout ce qui est créé par l'homme n'a jamais une espérance de vie très longue, puisque comme il est écrit dans le rituel de la messe, tout ce qui n'est pas construit par le Père en personne ne se perpétue pas, il n'a pas de pouvoir. Donc tout ce qui est conçu par l'homme ne peut durer que le temps de la vie de l'homme, le temps de la vie de cette forme pensée. Une forme pensée peut être plus ou moins puissante selon le nombre de personnes qui partagent la même pensée. C'est pourquoi on voit de ci de là naître ou renaître des groupements politiques ou même aussi des groupements spirituels, car dans mon énoncé il faut y voir aussi l'implication dans la spiritualité. La forme pensée ne concerne pas simplement la vie politique mais aussi la spiritualité. De la même manière que naissent des groupes spirituels, vont naître des formations politiques. C'est exactement le même principe et c'est exactement la même énergie. Prenons une planète X ou Y qui envoie une énergie bleue. Lorsque cette énergie bleue va tomber sur la Terre et tomber dans le creuset que représentent les hommes qui sont profanes vont recevoir cette énergie et l'intelligencer d'une manière matérielle. Ce qui fait que pour eux, ce sera une inspiration nouvelle pour créer une politique nouvelle. Tandis que ceux qui sont dans la voie de la spiritualité et qui entendent y faire quelque chose, vont recevoir cette même vibration, mais recréer une spiritualité. Créer de nouveaux mouvements, ou tout simplement faire sortir du passé quelque chose qui semble avoir été oublié. Et en politique, c'est exactement la même chose. La pensée est la même partout. Le besoin de diriger l'humanité est le même partout. Que l'on regarde le comportement spirituel ou le comportement politique. Il y a des chefs dans la spiritualité et il y a des chefs dans la politique. Et un monde, le premier monde comme le deuxième monde, sont exactement les mêmes mondes, avec les mêmes structures, la même hiérarchie, avec les mêmes énergies. Sauf que le premier monde, celui qui est politique, ne vise que l'organisation de la matière d'un point de vue purement matériel. Alors que le deuxième monde, le spirituel, vise l'organisation de l'esprit. Et voyez-vous, si l'on voudrait créer une politique idéale en même temps qu'une spiritualité idéale, parce qu'on ne peut pas penser simplement à une politique idéale. Une politique ne peut pas être idéale tant qu'une spiritualité n'est pas venue l'enrichir. et la spiritualité elle-même ne peut pas être idéale tant qu'une forme de politique n'est pas venue l'enrichir. Ce qui veut dire que pour le Nouveau Monde, nous ne prévoyons pas l'installation d'immenses monastères remplis de nombreux moines, comme si la spiritualité, de nouveau irriguée, allait favoriser la vie intérieure à la façon du monastère. Absolument pas. Le disciple de demain sera un moine, s'il le veut, un ascète, s'il le souhaite, mais un ascète qui est dans la vie et qui participe à l'organisation du monde. Et ceci pour sauvegarder le monde. De manière à ce qu'il n'y ait plus deux mondes qui s'affrontent, celui qui est matériel et celui qui est spirituel. Donc, le monde de la politique comme le monde de la spiritualité sont les mêmes mondes, avec les mêmes structures, la même hiérarchie et la même énergie. Mais il faut bien savoir que l'un essaye d'organiser le monde afin de soutirer les richesses du monde, tandis que l'autre essaye d'organiser l'esprit afin de déclencher les richesses de l'esprit. Et il peut y avoir des fois entre les deux mondes des correspondances, c'est-à-dire que l'on trouve dans le monde de la politique un initié qui est capable de venir avec la richesse de l'esprit essayer de transformer l'organisation de la matière. Et de la même manière, on peut voir dans la spiritualité quelqu'un qui serait capable d'un comportement purement politique s'il était matérialiste, s'il était profane, et on le voit ainsi pouvoir organiser parfaitement la vie spirituelle. Car il faut avoir un grand sens politique pour organiser la vie spirituelle. C'est-à-dire que on ne peut pas organiser un monastère, on ne peut pas organiser un mouvement spirituel sans avoir quelque part en soi le comportement d'un chef politique, c'est-à-dire avec une stratégie, avec un but clair et déterminé, avec des collaborateurs, et en sachant jouer sur ces collaborateurs, avec en même temps une certaine diplomatie, sans que cette diplomatie devienne une pensée politique comme on la trouve dans la politique. Mais il faut simplement savoir déterminer le but, s'y conformer et de temps en temps trouver les moyens d'approcher ce but, sans pour autant se renier ou faire ce qui se passe dans la politique. Mais l'esprit d'organisation et l'esprit de hiérarchie est absolument le même d'un côté ou de l'autre. Sauf que d'un côté, le dieu est celui de l'argent ou du pouvoir brutal sur les hommes, et de l'autre, le dieu est celui du cosmos et de la lumière. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir soin de se comporter dans la société comme faisant part entière de la société. Lorsque l'on veut être un disciple, il faut avant tout être un être social. Comme je l'ai dit si souvent, mais je le répète pour vous, on ne peut pas avoir un comportement spirituel sans avoir un comportement social, à moins de se retirer dans les cavernes et de ne voir plus jamais personne. Là est une solution. Mais tant que l'on est encore dans la vie, même si d'une certaine manière on n'est plus tout à fait comme la société, tant que l'on est encore dans la vie et que l'on a des relations avec l'autre ou avec les institutions, il faut rester social ou apprendre à le devenir. Qu'est-ce que cela veut dire donc être social, lorsque l'on veut en plus être un disciple? Être social, cela veut dire que l'on va remplir tous ses devoirs. Je ne dis pas que vous devez vous intéresser à la vie de votre quartier. Je ne dis pas que vous devez vous intéresser à une cellule politique, parce que je viens de le dire. Je ne dis pas que vous devez vous investir dans le monde profane. Absolument pas. Mais je dis simplement, accomplissez tous vos devoirs vis-à-vis de la société. Et si, par exemple, aller voter est un devoir, accomplissez ce devoir. Si gagner votre vie est un devoir, eh bien, gagnez votre vie. Et ayez bien en tête que cela est le devoir du fait que vous êtes incarné dans une société qui se maintient par des institutions. Et il faut donc respecter ces institutions pour que la société se perpétue. Bien sûr, on pourrait critiquer énormément la société. On pourrait lui reprocher toutes sortes de maux. C'est sûr qu'elle n'est pas idéale. Cependant, c'est en étant dans le monde que le disciple arrivera à transformer cette société qui ne lui convient pas. Alors que s'il se retire du monde, eh bien la société devient comme un bateau qui ne connaît plus de gouvernail ni de capitaine. Et ce sont tout simplement les pêcheurs qui sont là et qui ne savent pas lire dans les étoiles où est le nord, qui ne savent pas prévoir la tempête, qui ne savent pas dresser ou baisser la voilure, et en peu de temps, le bateau s'échoue. Chaque fois que on laisse une institution, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit spirituelle, ou qu'elle soit purement matérielle ou politique, chaque fois qu'on laisse une institution aux mains des gens du commun, et dans ma bouche à ce moment-là il n'y a pas de connotation péjorative, je dis tout simplement que ce sont des âmes trop jeunes, des esprits qui ne sont pas encore suffisamment faits, quand on laisse à ces esprits-là la charge d'alimenter, de manipuler cette institution, l'institution meurt. Et c'est comme cela qu'automatiquement, aussi bien les mouvements politiques que les mouvements religieux meurent dans un chaos total. Il n'est pas besoin, pour éliminer les choses anciennes, les choses qui n'auront plus cours dans la nouvelle ère, il n'est pas besoin pour le maître de venir et de châtier, par exemple, une église ou une institution dans la société ou un mouvement politique dans une nation. Il suffit tout simplement de laisser faire l'énergie. Et comme je vous l'ai dit au début du discours, une énergie est avant tout transportée par une forme pensée. Et cette forme pensée a son âme grâce à cette énergie. Comme on peut considérer cette chose comme une certaine entité ou comme un être, disons un être éthérique, et bien comme cette entité est un être, tout être trouve naissance et trouve la mort. Donc à un moment donné, l'entité éthérique va périr. Et que ce soit une entité spirituelle, un égrégore donc, ou que ce soit une entité politique, quelle que soit en fait l'institution. Et lorsque cette entité commence à périr de l'autre côté du voile, automatiquement l'énergie commence à baisser. Et dès que l'énergie commence à baisser, ce sont des individus inférieurs qui sont attirés par l'institution, qu'elle soit politique ou religieuse. Ce qui fait qu'immanquablement, un temple ou une institution qui a commencé avec brio, en voyant cette énergie décliner, va attirer des gens moins évolués. Et ce sont ces gens moins évolués qui vont finir d'achever la mort de l'institution. Et ceci a lieu aussi bien dans les institutions matérielles et matérialistes que dans les institutions spirituelles au niveau des religions, des temples, des lignées initiatiques, des lignées de baptême. Alors vous pourrez me demander, mais pourquoi est-ce que le monde est ainsi organisé qu'une énergie puisse mourir? Eh bien, je vous dirai qu'il y a un certain nombre d'énergies qui sont vouées à la mort. Pas toutes les énergies ont le destin de mourir. Ce sont tout simplement les énergies transitoires qui meurent. C'est-à-dire que tant que l'homme n'est pas capable de travailler avec le feu du ciel, il va travailler avec les vibrations du ciel. Et ces vibrations-là sont les enfants amoindris du feu du ciel. Et ces enfants amoindris sont exactement comme n'importe quel corps d'une de vos incarnations. Le corps naît et le corps meurt. Et ceci est en fait créé pour que l'évolution ait lieu. C'est-à-dire que si l'on prend une énergie transitoire qui a animé par exemple les temples d'Égypte, on s'apercevrait que cette énergie transitoire, tout en étant magnifique au moment de l'apogée initiatique de l'Égypte, eh bien on verrait que cette énergie ne reviendra plus jamais sur la terre. parce que tout simplement elle appartient au passé et que l'homme d'aujourd'hui a besoin d'une autre énergie pour continuer son évolution, parce qu'il se situe davantage sur le plan mental. Et quel que soit donc le brio des techniques de méditation ou des techniques de rêve ou des techniques de mise en transe des Égyptiens, il faut comprendre que, bien que ces techniques puissent être considérées comme éternelles, l'énergie qu'elles véhiculaient n'est plus du tout la même, même si aujourd'hui on refaisait le même rituel. Et c'est pour cela que les anciens rituels sont abandonnés, mais en fait ils ne font que passer dans un transformateur pour en retirer l'essentiel, parce que le geste est éternel. Lorsque l'on commande par exemple un archange pendant un rituel, ou lorsque l'on commande l'esprit christique à descendre sur un autel, le geste est le même. L'attitude intérieure du disciple est la même. Cependant, l'énergie qui effectivement viendra n'est pas du tout la même. Si on regarde le rituel d'il y a 10 000 ans, 5 000 ans, ou si on regarde le rituel d'aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que la substance christique qui était invoquée il y a 10 000 ans ou 5 000 ans n'est pas la même que celle qui est invoquée aujourd'hui. C'est, disons, la substance christique elle-même qui a décidé d'envoyer une certaine tonalité de sa nature. Ce qui fait qu'on ne peut pas espérer, pendant une messe par exemple, de recevoir véritablement le Christ sur l'autel. On va simplement recevoir un rayon du Christ, celui qu'il a décidé d'envoyer depuis que Jésus lui a servi d'incarnation et depuis que son Église est née sur la terre pour toute l'ère des poissons. Mais le Christ ou la substance christique qui sera invoquée de nouveau pendant l'ère du Verseau, ce sera toujours la substance christique, mais ce sera un autre rayon du Christ. Et chaque fois, le rayon est une note de plus en plus aiguë, de plus en plus pure, pour finalement un jour atteindre le centre, et à cet endroit-là, il y a l'énergie une. Donc on peut comprendre que ces énergies que l'on passe les unes après les autres et qui conditionnent la religion, l'initiation, la politique, l'économie, la culture, le sens des arts, le sens de la poésie et de la musique, etc. On peut considérer que ces énergies vont dans le mouvement d'une spirale qui commence à l'endroit le plus dense, qui est par exemple le point d'évolution zéro, et cette spirale commence à monter jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle commence à s'incurver pour atteindre son propre centre. Et au moment où ce centre est atteint, on peut dire que l'humanité est réintégrée dans son entier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'existe plus sur la terre une seule âme qui n'ait pas reçu le Christ ou la substance christique à l'intérieur comme un pur état de conscience. Ce qui veut dire aussi que, puisque chaque âme aura dû passer par cet instant, il aura fallu du temps et des initiations et des systèmes et des religions et des rituels. Et c'est cela que l'homme appelle l'évolution, l'aventure humaine. Mais en fait, il n'y a pas d'aventure humaine. Il n'existe aucune aventure humaine. Tout simplement parce que Dieu, si je puis exprimer le concept cosmique de la sorte, Dieu n'a pas créé l'homme pour lui-même. Il ne s'est pas dit, sur un coin de nuage, tiens, je m'ennuie dans l'univers et je vais créer l'homme pour que l'homme existe pour lui-même et de par lui-même. Et quand il en aura assez de manger du fruit de la terre, et qu'il en aura assez de recevoir mon châtiment chaque fois qu'il se sera mal comporté, eh bien je lui donne le droit de commencer les initiations afin qu'il me rencontre de nouveau. Imaginez un tel système est complètement faux. Et un tel Dieu ne peut pas exister, car il ne serait ni un Dieu de lumière, ni un Dieu d'amour. Ce serait tout simplement un autre Néron ou un autre Hitler ou d'autres sinistres personnages qui ont existé. Et celui-là aurait une envergure cosmique. Donc cela ne peut pas avoir lieu de la sorte. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'homme. Il est arrivé tout simplement à un endroit de l'univers qui s'appelle la matière dense, la matière cristallisée. Et pour vivre en tant que Dieu, à ce niveau-là, puisqu'il en a besoin, il avait besoin de se couvrir d'une certaine étoffe qui est la chair. Mais à l'instant où il s'est couvert de cette étoffe qui est la chair, automatiquement il allait rentrer dans le monde. Automatiquement il allait s'apercevoir de ce qu'est le monde matériel. Et allait se déclencher par là même tous les retours d'informations que le monde permet de contempler. C'est-à-dire que si je sors dehors, il fait chaud, j'éprouve la chaleur. Elle m'est agréable, je l'enregistre et je me rappelle que le chaud est agréable. Si je sors dehors et qu'il fait froid, c'est désagréable, je l'enregistre, ce qui fait que je me mets à préférer le chaud au froid. Et je me mets à détester même le froid. L'exemple est très simple, c'est à propos du chaud et du froid, mais il faut savoir que cet exemple conditionne tous les autres comportements de l'homme. Ce qui fait qu'ensuite, un individu va préférer les dames blondes aux dames brunes. Tout simplement parce que l'image lui évoque davantage de choses. Et l'incite à davantage d'extériorisation. Et de la même manière, les femmes vont parfois préférer les hommes forts aux hommes menus parce que tout simplement la connotation de la force va lui plaire davantage. Ce qui fait qu'elle ne s'intéressera jamais à l'homme qui est menu. Donc c'est en regardant le monde avec toutes ces différences qu'ensuite celui qui regarde et qui dans un premier temps, aux premières heures n'est que Dieu, devient un Dieu qui se met à préférer les différences qui ont été créées. Et à partir du moment où il se met à préférer, à faire un choix entre les différences qui ont été créées, d'un seul coup il devient humain. Il n'est plus Dieu, il est un homme. Parce que tout simplement il fait une différence entre les choses. Il sépare donc ce qu'il aime de ce qu'il n'aime pas. Il sépare le chaud du froid et il voit d'un seul coup la matière, il se dit ceci est le monde et il lève les yeux au ciel et il se dit là-haut est Dieu. À partir du moment où il est devenu un homme de cette manière-là, c'est là que l'aventure humaine commence. Et que pour l'homme, il s'agit de retrouver cette divinité. Et vous pourrez dire que par exemple, ce jeu semble stupide, car s'il existe un Dieu qui descend dans la matière et puis voyant qu'il existe le chaud et le froid, et que cela lui donne l'idée de la différence et de la séparativité, et que de là vient le fait que d'un seul coup il se réveille en tant qu'homme, qu'il n'est plus Dieu, et qu'ensuite pour retrouver la mémoire, il lui faut travailler à l'évolution, vous pouvez conclure que le jeu est parfaitement stupide et qu'on aurait tout résumé très vite, tout simplement en empêchant Dieu de créer le chaud et le froid, et qu'il n'avait qu'à créer du tiède. Bien sûr, la solution est logique. Votre pensée est logique. Mais c'est mal connaître la raison occulte de l'existence du monde. Lorsque l'on veut donc juger du pourquoi de l'évolution de l'homme, pourquoi est-ce que je suis ici? Et pourquoi est-ce que je suis ici de telle manière, avec telles épreuves, avec tel corps, telles idées, dans telle race? Il faut connaître en fait la raison qu'avait Dieu à s'incarner. Vous ne pouvez pas résoudre votre mystère, celui que vous appelez le vôtre, celui donc de votre initiation. Vous ne pouvez pas résoudre ce mystère sans commencer quelque part à penser comme Dieu. Donc, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu s'incarne? Pourquoi est-ce qu'il pratique ce jeu stupide dans lequel il se perd qui ennuie ensuite très fortement et très longuement des ribambelles d'initiés qui essayent de remonter l'échelle de la conscience. En fait, il faut savoir, dans un premier temps, que ce que l'on appelle justement le temps n'existe pas dans les concepts de Dieu. Donc, quand le disciple essaye de conceptualiser le mouvement de l'évolution et qu'il se dit à tel endroit il y a telle initiation, et puis dans tant de temps je pourrais avoir l'autre initiation, et puis la race elle-même à telle date arrivera à telle initiation, et puis un jour l'humanité entière à telle date arrivera à telle initiation, telle libération, il faut savoir que là est peut-être la pensée de l'homme, mais là n'est pas la pensée du logos. Il n'a pas l'appréciation du temps. Le temps n'existe pas pour lui. Il n'y a que des respirations. Et dans ces respirations, il y a envoi, projection d'un rayon de l'énergie qui le caractérise en tant qu'unité. Et c'est cette énergie qui va déterminer l'espace de conscience. Cet espace dans lequel toutes les transformations vont avoir lieu. C'est une question d'espace, de dimension dans la conscience et non pas de temps. Bien sûr, maintenant, vous pouvez très bien considérer l'espace et prendre vos pieds, marcher avec vos pieds d'un bout à l'autre de cet espace et me dire que le temps peut exister parce que pour aller d'un bout à l'autre de cet espace, il me faut un quart d'heure ou il me faut trois incarnations. Mais cela est construire un concept. Cela n'est pas démontrer une réalité. C'est tout simplement la construction d'un concept avec lequel vous arrivez mieux à philosopher et à imaginer les choses. Mais cela ne veut pas dire que cette idée existe. Il y a tout simplement une dimension, un espace dans la conscience qui est à conquérir. Et qu'il faille pour cela 10 minutes ou 1000 ans, tel que vous-même vous l'imaginez, cela ne compte pas. Tous ceux donc qui veulent essayer de mesurer le temps, tous ceux qui veulent essayer de trouver l'âge de la Terre ou des planètes se trompent et n'arriveront jamais à déterminer l'âge exact. Parce que tout simplement, il s'agit de traverser des dimensions. Et la dimension peut prendre 10 minutes comme 1000 ans. Cela dépend des hommes qui habitent une Terre qui est en extériorisation. Si les hommes intègrent vite la substance, alors la dimension ne réclamera que 10 minutes. Si les hommes, au contraire, n'arrivent pas à intégrer la substance, alors il faudra même des millénaires. Mais le temps n'existe pas. Par contre, il y a un rythme dans les respirations. Et dès que je dis le mot rythme, il ne faut pas imaginer que c'est une autre façon, peut-être plus abstraite, de voir le temps. Il n'est pas question de temps là-dedans. Car un rythme n'est déclenché que quand un autre s'éteint. Donc, il faut qu'un rythme ait été pleinement vécu pour qu'un autre existe. Et le rythme précédent peut avoir pris 10 minutes comme 1000 ans. Il n'est donc pas question de mesurer quoi que ce soit. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas prédéterminer les respirations locales qui ont lieu à l'intérieur de la planète. Par exemple, les respirations d'une race, les respirations d'une nation et les respirations d'une institution, et puis votre respiration, c'est-à-dire votre destin. Ces respirations locales, on peut facilement les déterminer et on peut s'aider en cela grâce aux planètes. Mais sitôt qu'un homme se met à respirer différemment, les planètes ne peuvent plus rien déterminer. Et si toute une nation se mettait à respirer différemment, donc à vivre un rythme différent, si l'astrologue essayait de prévoir le destin d'une telle nation, il serait vite dépassé comme s'il avait pris un train qui filait trop vite, et durant le voyage, il lui serait impossible de remarquer le paysage. Tout serait rendu invisible par la vitesse. Tandis que si on va très lentement, alors on peut s'apercevoir qu'à droite il y a un arbre et qu'en haut de l'arbre il y a un nid, puis qu'au fond il y a une ferme et qu'il y a un paysan qui sort de sa ferme. Le paysage devient clair, on peut le décrire si on va lentement. Mais si on va vite, il n'est plus même question de rester dans le paysage. Il y a tout simplement une éthérisation de la vibration et l'homme soudain n'appartient même plus au monde physique. Et la nation elle-même n'appartient plus au monde physique. Et lorsqu'une nation arrive à vibrer de cette façon-là, automatiquement le groupe d'âmes qui l'a composé sont retirés de l'espace de vie matériel. Et cette nation-là commence, toujours aux alentours de la Terre, une vie complètement éthérique. Et c'est cette vie éthérique qui intéresse particulièrement l'initié. Parce qu'il sait que dans cette vie éthérique, on peut y rencontrer les autres initiés, les maîtres, le temple, et plus loin même, le logos de la planète. Et puis si on pousse encore plus loin la note, de manière à sortir de l'aura de la Terre, on peut rencontrer le logos du soleil. Et si on pousse encore plus loin, car on peut toujours aller plus loin, on rencontre encore d'autres dimensions. Mais il faut pouvoir chaque fois éthériser davantage, subtiliser davantage la vibration qui nous caractérise. Ce qui fait que lorsque l'on considère le comportement politique d'une nation, vous pouvez facilement conclure, en écoutant mon discours, que la politique d'une nation n'est que la vibration ou l'expression la plus lourde d'une vibration spirituelle. Et comme cette vibration est lourde, elle est donc transitoire, elle n'est pas l'absolu, donc elle ne connaît qu'une courte incarnation. Bien sûr, cette incarnation semble longue lorsqu'on voit un père, puis son fils, puis son petit-fils, vivre dans cette vibration-là et en souffrir, c'est certain. Mais il faut savoir que dans chaque creuset, qu'il soit politique ou religieux, des expériences différentes et très enrichissantes sont possibles. Et c'est en passant à l'intérieur de ces vibrations que l'homme de demain arrivera à conclure le comportement exact qu'il doit entretenir, que ce soit du point de vue politique, économique ou religieux. Et généralement, les disciples qui ont fait un long séjour dans la société, en se responsabilisant, que ce soit à l'intérieur des entreprises ou que ce soit à l'intérieur de cellules politiques, deviennent ensuite, au moment où ils se responsabilisent vis-à-vis d'un mouvement spirituel, ces gens-là deviennent capables véritablement de faire quelque chose. Car ils ont ce qu'il faut d'organisation, de sens critique, de discernement et aussi et surtout de force. Car ils connaissent le but et ils essayent d'aller vers ce but, exactement comme un politicien. Mais il n'y a aucune différence. Et on pourrait dire aussi, pour parler un peu des détails de la vie politique, on pourrait dire aussi que les services secrets d'une nation se retrouvent aussi à l'intérieur de l'institution religieuse. On trouve à l'intérieur de la spiritualité des gens qui, en fait, s'ils étaient profanes, seraient tout bonnement des espions. Mais à l'intérieur de la spiritualité, ils ont réussi à subtiliser cette vibration pour en faire tout simplement un esprit de stratégie et de tactique. Ce qui fait que, d'avance, le but, on le sait, sera atteint. Mais retirons l'étincelle de l'esprit à cet individu.